Bonjour, soyez les bienvenus à l'émission Le quotidien des quotidiens, édition du mercredi 16 mai 2018. Hélène Denis qui vous accompagne. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
Alors, vous êtes enthousiaste ce matin?
Mais oui, j'ai été réveillé par la température fraîche, mais le beau soleil, le ciel bleu, ça nous donne envie de sourire.
Ah oui,
c'est
je vous comprends tellement.
Et on aime.
C'est vrai. Les gens sont de bonne humeur, à moins d'être pris dans des bouchons de circulation, mais il y a pire que ça dans la vie. Alors, continuez, mon cher.
16 mai, on parle de l'anniversaire de naissance de l'acteur américain Henry Fonda, né en 1905. L'année suivante, 1906, le peintre Alfred Pellan, né à Québec. 1919, l'anniversaire de naissance du pianiste et amuseur Vladio Valentino Liberace.
Oh, on connaît plus son nom de famille que son prénom.
1929, naissance de Claude Morin, essayiste, enseignant universitaire et homme politique québécois. 1931, anniversaire de naissance, aujourd'hui en ce 16 mai, de l'actrice, metteur en scène, directrice de théâtre, scénariste et réalisatrice québécoise, Denise Filiatreau.
Bon anniversaire, Madame Filiatreau.
Et 1934, naissance de Suzanne Lapointe, actrice et animatrice québécoise, elle qui a disparu le 2 janvier 2015, anniversaire de décès en ce 16 mai. 1990, le chanteur et fantaisiste Sammy Davis Jr. Même année, 1990, Jim Henson, le créateur des Muppets, de Kermit, Miss Piggy et autres marionnettes qui ont fait le plaisir des enfants dans les années 70 et 80.
Oui, Sesame Street
mm-hmm. également, merci. 1983, décès de Réal Bellampère, l'acteur et humoriste québécois.
Tigus Timus, c'était le Tigus. Non, oui, le Tigus de Timus.
Et 1703, l'auteur de contes Charles Perrault, qui a popularisé plusieurs contes, dont Les Trois Petits Cochons, Chaperon Rouge et autres contes classiques de notre enfance. 16 mai 1619, le Danois Jens Munk est le premier Européen à voir la rivière Churchill au Manitoba, que les Cris et Chippewyan appellent Missinipi.
Vous êtes bon ce matin dans les prononciations, c'est pas facile.
Je ne m'en fâche pas, mais ça ne veut pas dire que je les prononce
mais
correctement.
Ça sonne bien, je dirais.
1703, fondation de Saint-Pétersbourg par le tsar Pierre le Grand. 1770, à Versailles, le futur Louis XVI, âgé de 15 ans, épouse l'Autrichienne Marie-Antoinette Joseph-Jeanne de Lorraine, 14 ans. 16 mai 1868, à son procès au Sénat à Washington, il ne manque qu'une seule voix pour destituer le président Andrew Johnson. 1871, le Canada fait de la Colombie-Britannique sa sixième province. En 1888, devant le Franklin Institute à Philadelphie, Émile Berliner présente le disque plat successeur du cylindre, donc l'ancêtre du disque 33 tours. 45 tours et tous les autres disques plats, finalement. Mm-hmm. 1829, le feu détruit une centaine de maisons à Québec. 1920, au Vatican, Jeanne d'Arc est canonisée. 1927, au Québec, les libéraux de Louis-Alexandre Taschereau font élire 74 députés, alors que les conservateurs en élisent 9. 1929, à Los Angeles, toujours un 16 mai. Lors d'un premier gala qui dure 15 minutes, le film Wings est proclamé meilleur film de l'année.
Un gala de 15 minutes,
1929 tout de même. Emil Janning et Janet Gaynor gagnent comme meilleur acteur. Les prix seront baptisés 2 ans plus tard, donc en 1931, les Oscars. Première cérémonie donc des Oscars qui ne s'appelait pas Oscars.
Et qui dure maintenant 5h15.
Oui, qui sont touchés de montage vidéo et parfois de problèmes dus à la technologie qui fait qu'on ne couronne pas le bon film. 1966, début de la révolution culturelle en Chine. 1975, la japonaise Junko Tabe, 36 ans, est la première femme à escalader l'Everest. 16 mai 1976, dimanche noir, à Beyrouth, où des combats tuent 150 personnes parmi les chrétiens et les musulmans. 1983, 16 mai, Michael Jackson effectue pour la première fois le moonwalk lors du 25e anniversaire de Motown. En 1990, un dépotoir de pneus prend feu à Saint-Amable sur la rive sud de Montréal, lui qui contenait près de 4 millions de pneus. En 2000, le 16 mai 2000, il y a donc 18 ans aujourd'hui, le commissaire fédéral à la vie privée révèle l'existence d'un fichier de renseignements personnels sur 34 millions de Canadiens vivants et décédés. En 2007, Nicolas Sarkozy devient président de la France et en 2013, le député fédéral de l'époque, M. Denis Coderre, confirme qu'il prendra bel et bien part à la course à la mairie de Montréal en vue des élections municipales de l'automne. On sait maintenant qu'il a remporté ces élections. Et je terminerai en vous apprenant que le 16 mai est la journée mondiale de la maladie cœliaque, cette intolérance quand même assez forte au gluten.
Un grand merci, Jean-Sébastien. À la une de la presse exclusif, voisin de l'autoroute 25, un tremblement de terre en permanence. C'est une citation depuis l'ouverture d'un nouvel accès au port de Montréal pour les camions. De puissantes vibrations empoisonnent la vie de nombreux résidents de la rue Curato. La CAQ mise sur un casino à Québec. L'arrivée d'un éventuel compétiteur au casino de Charlevoix inquiète les gens d'affaires de la région. Et la chronique de Mario Girard, la chanson Ce baromètre, l'Israélienne Netta Barzilai, gagnante de l'Eurovision. De puissantes vibrations minent la qualité de vie de résidents qui vivent près de l'autoroute 25. Ça vibre comme s'il y avait un tremblement de terre en permanence, c'est constant. Mes nuits sont hypothéquées. Danielle Laviolette a toujours toléré le fait de vivre avec le bruit de l'autoroute 25 qui passe près de chez elle. Mais depuis l'ouverture, à la fin de 2017, de nouvel accès au port de Montréal pour les camions, la situation est devenue intolérable pour de nombreux résidents de la rue Curato, alors que de puissantes vibrations se font ressentir jour et nuit. Le ministère des Transports, qui a documenté le problème avec des sismographes, promet des correctifs, mais les citoyens doutent de l'efficacité des travaux prévus. La CAQ mise sur un casino à Québec. S'il est élu le 1er octobre prochain, la formation politique de François Legault promet de mener une étude en 6 mois ou 1 an pour trouver un endroit où déménager le salon de jeu et possiblement en faire un casino. Je suis persuadée qu'on peut faire tout ça à l'intérieur d'un mandat, c'est indéniable. Si on construit un pont à l'intérieur d'un mandat, on va être capable de faire un casino, ça c'est sûr, a dit hier à la presse François Bonnardel, leader parlementaire de la CAQ. Selon Bonnardel, Québec est une des grandes villes du monde où il existe un marché pour un casino. Celui-ci pourrait être situé dans le coin du Vieux-Port, dit-il, quoique son emplacement exact reste à être déterminé. Quand on pense aux bateaux de croisière, aux touristes, quand on pense à ceux qui arrivent en train, ce serait selon moi un environnement plus adéquat que d'avoir un salon de jeu au centre commercial Fleur-de-Lys, explique le député caquiste. À la CAQ, on justifie ce projet en termes de santé publique afin d'éloigner l'offre de jeux des populations vulnérables. Pour moi, l'important, c'est de sauver des vies, dit M. Bonnardel, qui reconnaît tout de même qu'avec un casino, les revenus pourraient être plus importants pour l'Auto-Québec. Le projet de la CAQ ne fait toutefois pas l'unanimité. Julien Dufour, président de la Chambre de commerce de Charlevoix, assure que les gens d'affaires qui bénéficient des visiteurs au casino de la Malbaie seront assurément aux aguets. L'homme d'affaires et président de la campagne électorale du Parti libéral du Québec, Alexandre Taillefer, se questionne sur l'impartialité des journalistes de Québécois, dont le propriétaire de ces médias est l'ancien chef péquiste Pierre-Carl Péladeau. En entrevue au micro de Paul Arcan mercredi ce matin, M. Taillefer a affirmé que les journalistes de Québécois reçoivent de bonnes tapes dans le dos quand les dossiers parlent d'intérêts qui vont être en faveur des positions de leur patron. « Si j'étais journaliste ou chroniqueur au Journal de Montréal, je m'interrogerais sur mon impartialité. Le job d'être journaliste à la base, le code d'éthique, c'est de démontrer une impartialité », a dit l'homme d'affaires, notamment propriétaire du magazine L'Actualité. Le Journal de Montréal publiait mercredi à la une de leur version papier un article titré « Zizanie chez Théo Taxi », une compagnie d'Alexandre Taillefer suivie d'une chronique de José Legault ayant pour titre « Le nouveau projet de Taillefer ». L'article du Journal de Montréal représentait un portrait clair et le journaliste a fait un bon travail. Il m'a interviewé, j'ai donné les contre-arguments, et l'article est réellement factuel. Ce qu'il faut se demander, par contre, c'est comment ça se fait qu'un article sur un enjeu opérationnel d'une compagnie fasse la page couverture ce matin, avec un autre petit encore de José Legault, s'est questionné M. Taillefer. Les restaurateurs veulent avoir leur mot à dire. Faisant face à une pénurie de main-d'œuvre en cuisine, des restaurateurs demandent à Québec de leur donner le droit de mettre en place, s'ils le souhaitent, une politique de partage des pourboires qui inclurait les employés des cuisines. Une délégation menée par Vincent Arsenault, propriétaire du restaurant Tomate Basilic, Jérôme Ferrer du groupe Europea, et Nathalie Lehoux, présidente des restaurants Pacini, a présenté un mémoire allant dans ce sens hier, à l'Assemblée nationale au nom de l'Association des restaurateurs du Québec, ARQ. Présentement, l'employeur ne peut intervenir de quelque manière que ce soit dans le partage des pourboires, déplore François Meunier, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l'Association des restaurateurs du Québec. Monsieur Meunier espère que cette disposition disparaîtra dans la loi sur les normes du travail actuellement en révision. C'est le projet de loi 176. Dans de nombreux établissements, ces pourboires sont partagés entre les serveurs. Dans certains cas, un pourcentage de la somme totale des pourboires est versé au personnel en cuisine, mais ce partage est fait sur une base volontaire. Ce qu'ils en pensent, Lisa Frula, le partage de pourboires avec les employés de cuisine se fait déjà dans certains établissements, mais rien ne les oblige. La vérité est que si la bouffe n'est pas bonne, il n'y a pas de clients, pas de pourboire et pas de job. Le principe est de donner de la flexibilité à l'équipe. Je ne sais pas s'il faut qu'il y ait des pourcentages définis à l'avance. Avec le manque de main-d'œuvre actuellement, je plains le restaurateur qui ne traite pas ses employés avec des gants de velours. Et Danny Saint-Pierre, propriétaire de la Petite Maison et directeur culinaire de la Tribu, moi, je revendique le droit de gérance des restaurateurs pour qu'ils puissent décider du partage des pourboires, parce qu'il faut qu'une part soit versée aux employés de cuisine. Il faut une meilleure répartition des pourboires, mais il faut mieux payer nos serveurs. Idéalement, on inclurait le pourboire dans la facture, mais les consommateurs moyens veulent avoir l'impression d'avoir le contrôle sur la qualité du service. C'est une nouveauté à Montréal. 12 toilettes auto-nettoyantes publiques et gratuites vont être installées dans l'arrondissement de Ville-Marie. La première a été ouverte ce mardi aux abords du métro Papineau. Ouverte de 6h à minuit, la toilette est nettoyée automatiquement après chaque utilisation. Après le passage d'un visiteur, un bras de lavage désinfecte la cuvette et un balai automatisé nettoie le sol. La toilette sera aussi visitée au moins une fois par jour par un agent d'entretien pour un nettoyage supplémentaire et le remplissage du papier de toilette et du savon notamment. Pour éviter les activités illicites, comme le trafic de drogue et la prostitution, les portes s'ouvriront automatiquement après 15 minutes. Les organismes Spectre de rue et le Sac à dos, qui soutiennent les personnes marginalisées, sont partenaires du projet. Des équipes de 2 se relaieront pendant 5 mois pour encadrer l'utilisation dans les toilettes et prendre les commentaires des usagers. Un rapport sera établi après ces mois d'observation. Et pour terminer, nouveau coup de théâtre à quelques jours du mariage royal. Après plusieurs revirements, le père de Meghan Markle a affirmé hier à un média américain qu'il ne pourrait pas assister aux noces de sa fille et du prince Harry. Thomas Markle, 73 ans, a indiqué à TMZ qu'il allait se faire opérer du cœur ce matin. Thomas Markle ne va donc pas mener sa fille vers l'hôtel samedi et il ne se rendra pas en Angleterre. Cette annonce fait suite à une période d'interrogation quant à la présence de M. Markle au mariage qui a quelque peu enrayé la communication parfaitement rodée de la famille royale. Cette dernière ne répondait plus aux sollicitations hier. La mère de Meghan Markle, Doria Ragland, 61 ans, devrait, elle, être bien présente à la cérémonie et pourrait conduire sa fille à l'hôtel, selon plusieurs médias.
Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Déclare que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Levé à 7h du mat, t'es déjà en retard, ton patron va encore te brasser. Tu t'habilles direct, tu prendras ta douce ce soir, tu finis de lasser tes chaussures dans les escaliers. J'ai besoin d'air, besoin de liberté, ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité. Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion, je dois être le fou comme je ne suis pas cavalier. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin.
Le peuple était au pouvoir, il n'y avait plus du tout de politiciens. C'était le soupe, le bambi des magasins. Tout le monde avait un droit et plus personne n'avait faim.
Je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Oh, 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 oh. Je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Allez leur dire qu'on vient pas faire du cirque. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Et ça donne chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Et ça donne, passe le message à ton voisin. Et ça donne.
Je me souviens des amis avec qui j'ai grandi. Ce sentiment d'être exclu nous rendait solidaires. Chacun prit son train quand les années passèrent. À chacun son move, à chacun sa galère. Les chemins où tu ris sont les mêmes que ceux où tu pleures. La vie est une aventure, il ne faut pas avoir peur.
Mais te souviens-tu des amis que tu as eu question? Te souviens-tu de ce que tu as perdu? Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Et ça donne, passe le message à ton voisin. Et ça donne, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Et ça donne, passe le message à ton voisin. Et ça donne, passe le message à ton voisin.
Retour en 1994 avec K.O.D., la pièce « Chacun sa route » qui a été popularisée, notamment avec le film « Un Indien dans la ville ».
À la une du Devoir de ce 16 mai, une photo du cinéaste Lars von Trier. Festival de Cannes, controverse, Lars est ton nom. Hyper violent, le dernier film du directeur danois provoque à la fois nausée et ovation. Santé, médecine familiale, les régions boudées par les résidents, la réforme du ministre Barrette causerait une désaffection des étudiants pour la médecine générale. Entrevue, je suis sortie avec mes chums de filles, stars du web, grâce à leur capsule Conseil, les grandes crues révèlent mercredi un premier spectacle intitulé « Sul gros vin ». Alors, on a une photo dans leur premier spectacle sur le gros vin. Le duo formé par Ève Côté et Marilyn Jonca met en scène deux jeunes trentenaires qui dissèquent leur catastrophique rendez-vous amoureux et jasent de sexe. Après l'incendie, la vague d'amour, il faudra bien plus qu'un feu pour arrêter les artisans du devoir dans leur mission d'informer. Louis Audet cède sa place chez Cogeco. Il sera remplacé par l'actuel dirigeant de Cogeco Peer One, Philippe Jeté. Pyongyang menace d'annuler le sommet de juin avec Trump. Critique de la modernité, l'écrivain et essayiste Tom Wolfe s'est éteint. Les régions éloignées écopent pour la perte d'attractivité de la médecine familiale auprès des étudiants en médecine. La majorité des 65 postes de résidence restés vacants cette année, un record, se trouve en région. Une catastrophe, voilà comment la docteure Isabelle Massé décrit l'impact pour l'Abitibi-Témiscamingue où 19 postes sur 22 n'ont pas trouvé preneur. Les 6 postes disponibles à Amos ont été boudés, tout comme 5 des 6 postes à Lasarre. Et le seul étudiant recruté, là, vient d'une autre province canadienne. Les équipes d'enseignement sont découragées, avoue la médecin de Lasarre, alors que la situation était également difficile l'an dernier. Autre exemple, sur la Côte-Nord, 7 des 8 postes disponibles à Baie-Comeau sont libres. À Trois-Pistoles, c'est 4 postes sur 6. La plupart des postes non pourvus sont en région éloignée, mais pas tous. 14 se trouvent à Québec, 2 à Lévis, 5 dans la région de Sherbrooke et 2 à Saint-Hyacinthe. Seul espoir possible, il arrive que des résidents s'amènent en cours d'année lorsqu'ils abandonnent un programme de résidence en spécialité qui finalement ne leur convient pas. Ce sont de belles surprises, dit la docteure Massé. Mais rien n'est garanti. Nous ne sommes pas à l'abri qu'aucun ne nous arrive dans l'année. Plusieurs pointent les mesures et le discours du ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, comme l'un des facteurs ayant mené à la situation actuelle. Avec tous les changements, ça ne rend pas la médecine de famille très attrayante, remarque le président de la Fédération des médecins résidents du Québec, le Dr Christopher Lemieux. Il va y avoir un gros travail à faire pour en redorer l'image. Le fait que la médecine de famille soit désormais attachée à une pratique très ciblée en cabinet fait peur, constate le docteur Hugo Vien, qui préside l'Association médicale du Québec. Et les régions ont l'odieuse double tâche d'attirer les étudiants non seulement en médecine de famille, mais aussi en région, ajoute-t-il. Le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, veut faciliter la procédure de traitement des plaintes dans les écoles québécoises en consentant une plus grande autonomie aux protecteurs de l'élève. Il soumettra mercredi un projet de loi pour y arriver. Le protecteur de l'élève est actuellement désigné par le Conseil des commissions scolaires, ce qui mine son indépendance et par conséquent sa crédibilité, selon la protectrice du citoyen, Marie Rinfret. À ses yeux, l'indépendance du protecteur de l'élève doit être plus clairement établie, tant sur le plan du principe que de son action. La pression augmente sur le gouvernement Couillard pour la mise en place d'une loi spéciale visant à mettre fin au lock-out à l'Université du Québec à Trois-Rivières. La ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David, a répété mardi qu'elle n'exclut aucune mesure pour relancer les négociations entre l'établissement et ses 445 professeurs. Les partis à l'Assemblée nationale sont convaincus que la loi spéciale a été discutée lors d'une séance du Conseil des ministres mardi soir à Québec. Quelles sont les conséquences du non-respect de l'ultimatum, a demandé le député péquiste Alexandre Cloutier sur son compte Twitter. Il reprenait une communication de la ministre David qui se désolait de constater que l'UQTR n'a pas respecté le délai de 48 heures qu'elle lui a fourni vendredi afin qu'elle mette fin au lock-out. Mardi matin, la ministre David s'est rendue à l'université pour exiger une fois de plus la levée inconditionnelle du lock-out. Lundi soir, elle avait désavoué la direction de l'établissement en qui elle a dit ne plus avoir confiance. La ministre a rencontré le recteur Daniel McMahon ainsi que des représentants des professeurs et des étudiants mardi matin. Visée par des allégations de harcèlement, la mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Juliana Fumagalli, devra travailler de la maison en attendant que le processus de médiation soit terminé. Valérie Plante a indiqué mardi qu'elle avait été avisée de l'existence d'une plainte pour harcèlement contre une élue de son équipe le 10 mai dernier. « On prend ces allégations très au sérieux », a-t-elle dit. La plainte aurait été portée par une personne qui travaille à la Ville de Montréal, membre de Projet Montréal. Madame Fouma Ghali avait défait Annie Samson lors des élections du 5 novembre dernier. Le chef de l'opposition, Lionel Pérez, estime que Juliana Fouma Ghali devrait se retirer de ses fonctions le temps qu'une enquête soit menée. Éclaboussée par des commentaires passés sur l'islam, Muguette Payé a retiré mardi sa candidature à l'investiture du Parti québécois dans la circonscription de Masquinongée. Un blog a rapporté que la militante avait formulé des déclarations agressives sur des forums de discussion xénophobes. La direction du PQ a confirmé mardi après-midi que Mme Payé avait transmis une lettre au parti pour retirer sa candidature et reconnaître la maladresse de ses actions sur les réseaux sociaux. Le chef péquiste Jean-François Lisée s'était réjoui la semaine dernière de l'arrivée de Mme Payé. Il l'avait qualifiée de voix de la sagesse populaire du monde qui en arrache. Cependant, il n'a pas voulu commenter son retrait mardi. Pierre-Carl Péladeau accuse les gouvernements de ne pas assumer leurs responsabilités face aux ravages infligés par les entreprises numériques étrangères qui contournent sans vergogne les règles fiscales et parasitent les entreprises qui investissent, embauchent et payent des impôts au pays. L'Association des économistes québécois avait prévu mardi un atelier sur l'économie numérique et la fiscalité pour la deuxième et dernière journée de son congrès annuel qui se tenait à Montréal. Si les conférenciers étaient loin de s'entendre sur les solutions apportées au problème de la concurrence déloyale exercée notamment par les géants étrangers de l'industrie numérique, tous ont cependant convenu de blâmer les gouvernements pour leur inertie coupable. Et pour la première fois de son histoire, à compter du mois de septembre, Cogeco ne sera pas dirigé par un membre de la famille Audette, mais cette dernière compte bien garder le contrôle de l'entreprise malgré le départ imminent de Louis Audette comme président et chef de la direction. La famille Audette s'engage à continuer de contrôler cette entreprise et à la laisser croître comme nous l'avons fait au cours des 60 dernières années. Restez avec nous, le quotidien des quotidiens se poursuit après la pause avec la revue de presse du Journal de Montréal. Merci d'être là.
Jamais comme on veut, jamais comme on le voudra. D'un côté toi pour le mieux, de l'autre côté ça ne va pas. C'est le monde à l'envers et moi je ne pige toujours pas. Mais dis-moi, quelle est la règle du jeu? Dis-moi, mais quelle est la loi? Car je vais te prendre dans mon cœur, te prendre dans mes bras. Répondre à tes yeux et à tous tes mouvements. Porté par Stravinsky et le sacre du printemps. C'est le printemps. Jour du printemps, mais dis-moi, qu'en est-il du rêve et qui emporte tes pas? Car je veux le voir dans tes yeux, l'entendre dans ta voix, pour qu'il me sente d'avril. Aidez-moi, président, qu'il me reçoit dans le mille ans, plein cœur du printemps, c'est le printemps.
dis-moi, mais quelle est la loi? Mais dis-moi, quelle est la règle du jeu? Dis-moi, mais quelle est la loi? Mais dis-moi, quelle est la règle du jeu? Dis-moi, mais quelle est la loi? Mais dis-moi, quelle est la règle du jeu? Dis-moi, mais quelle est la loi?
Retour en 2000 avec la pièce Le Printemps du concepteur québécois, directeur artistique, metteur en scène, réalisateur, auteur, compositeur, interprète Richard Petit.
En une du Journal de Montréal, Zizanie chez Théo Taxi. Compression mise à pied, Alexandre Taillefer s'explique auprès de ses employés. Le choc des idées, les conservateurs changent la donne, c'est la chronique de Mario Dumont. Le nouveau projet de Taillefer, José Legault, CAQ, PLQ, des frères jumeaux, Régent Parent. Jusqu'à 300 vendeurs de potes recherchés. Québec cherche 300 vendeurs de potes. Il y aura 20 succursales de la Société québécoise du cannabis. La future Société québécoise du cannabis, SQDC, est en mode embauche. Elle cherche entre 10 et 15 vendeurs pour chacune de ces 20 succursales qui ouvriront cet automne, soit près de 300 « pushers », entre guillemets. En entrevue hier, le grand patron de la Société des alcools du Québec, Alain Brunet, a donné un avant-goût de ce à quoi ressembleront les magasins où les Québécois achèteront du pot. Ceux qui espéraient se faire embaucher pour tester différents produits sur le bras de la société d'État seront déçus. Les employés qui seront embauchés seront formés cet été, mais aucune découverte des produits par la dégustation n'est prévue pour l'instant. Il faudra bien sûr avoir une bonne maîtrise du sujet. La SQDC travaille avec les 6 fournisseurs afin que leurs vendeurs soient capables de conseiller les consommateurs sur les quelques 150 produits qui se trouveront en magasin. Vendeur de cannabis, métier d'avenir, avec 10 à 15 employés par succursale, la SQDC devra embaucher 300 conseillers cette année. La nuit suivante, le réseau pourrait compter entre 100 et 150 pointes de vente, soit près de 2250 vendeurs de potes à terme. Le PDG estime pouvoir aller chercher environ 30 % du marché noir la première année. Il compte y arriver avec des prix compétitifs environ 6 $ le gramme. La SQDC, donc la Société québécoise du cannabis, veut être présente dans presque toutes les régions administratives du Québec la première année. Certaines municipalités se sont montrées réticentes pour cette première phase de déploiement, c'est le cas de Laval et de Longueuil. Les vendeurs auront la tâche complexe de conseiller les clients sans faire la promotion du cannabis. Pas de pastilles de saveur ni de rabais pour la fête des Patriotes. Les succursales pourront être ouvertes de 10h à 22h jusqu'à 90h par semaine. Le site Internet sera fonctionnel au jour 1 de la légalisation. Les appels d'offres pour déterminer qui livrera le cannabis viennent de se terminer. Les candidatures sont à l'étude. Le pot sera livré en 48 heures. Thank you. Le gouvernement Couillard annoncera aujourd'hui qu'il permettra aux pêcheurs d'accéder aux rivières du Nord sans utiliser tous les services d'une pourvoirie, a appris le journal. Donc, résumé des faits, Québec a adopté un règlement pour confier l'exclusivité de la pêche au saumon du Nord à une poignée de pourvoiries. Au fil du temps, Luc Blanchette a dit qu'il a pris cette décision pour favoriser l'économie du Nord, avoir un meilleur suivi de la population de saumon, appliquer davantage la convention de la baie James. Sa décision est critiquée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, 125 000 membres, le PQ, la CAQ et Québec solidaire, Aviateur Québec. Il a l'appui de la communauté inuite, la Fédération des pourvoiries. Et j'ai donné un exemple maladroit pour illustrer ma pensée et je m'en excuse. Moi-même, je fréquente Walmart, comme à peu près tout le monde dans la salle, a dit Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs. Donc, en ce qui concerne Walmart, il s'est excusé parce qu'au début du mois, lors de l'étude des crédits budgétaires, M. Blanchette avait indiqué que les pêcheurs qui vont dans le Grand Nord ne sont pas une clientèle de Walmart, mais plutôt une clientèle triée sur le volet. Les femmes en niqab devront se découvrir le visage. Une femme arborant un niqab ou une burqa pourra réussir le test des valeurs d'un gouvernement de la coalition Avenir Québec à condition qu'elle se découvre le visage le temps de passer l'examen. Pour pouvoir s'établir dans un Québec dirigé par François Legault, les immigrants auront 3 ans pour apprendre le français, réussir un test des valeurs québécoises et prouver qu'ils ont fait des démarches pour trouver un emploi. Le chef caquiste a accordé hier une entrevue à notre bureau parlementaire sur la position identitaire de son parti. Un Québec dirigé par François Legault accueillerait moins d'immigrants, pas plus de 40 000 pour quelques années, le temps de mieux réussir notre intégration. Le chef caquiste souhaite toutefois que cette pause soit temporaire et que les seuils d'immigration soient éventuellement revus à la hausse. Libéraux, péquistes et solidaires ont dénoncé en chœur les propositions de la CAQ. Premier jouet trans créé au Québec, des enseignants et éducateurs en garderie qui accueillent de plus en plus des enfants transgenres dans leur groupe pourront bientôt utiliser un des 500 exemplaires du premier jouet conçu pour expliquer cette réalité. Jacques Pétrin est un des premiers à avoir commandé des exemplaires de Sam, premier jouet transgenre au monde. Il croit que ses créateurs québécois ont bien fait de concevoir un jouet que les enfants pourront manipuler au lieu des traditionnels livres ou campagnes de communication. Il y a des jeunes qui n'ont même pas commencé à apprendre à lire. Ça arrive souvent avant ça, dit M. Pétrin, en faisant référence au questionnement sur l'identité du genre. Il est coordonnateur de la Table nationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie des réseaux de l'éducation. Depuis quelques années, les questions sur le sujet se posent de plus en plus, que ce soit dans les écoles, les garderies et même dans le milieu de la santé. Afin d'enrayer la transphobie à la racine, l'agence LG2 et l'organisme Enfants transgenres Canada ont créé un jouet basé sur le modèle des poupées russes, accompagné d'un court film qui raconte l'histoire du personnage Sam. Chaque poupée représente les étapes par lesquelles peuvent passer certains enfants qui se questionnent sur leur identité de genre. Par exemple, la deuxième poupée montre Sam, alors considéré comme une fillette, qui s'amuse naïvement à se dessiner une moustache. La cinquième poupée montre Sam dans une phase plus sombre où il éprouve de la tristesse à force de se sentir rejeté. Les intervenants pourront donc présenter la vidéo aux enfants, les laisser s'amuser avec le jouet et les inviter à discuter de ce qu'ils ont retenu, prévoit M. Pétrin. Ça ne dit pas aux enfants comment être, mais plutôt comment accepter ceux qui vivent cela, explique le designer graphique Jean-Philippe Dugal chez LG2, qui espère rien de moins que de changer le monde grâce à Sam. « Ottawa va financer Juste pour rire. En dépit des allégations d'agression sexuelle visant son fondateur Gilbert Rozon, le festival Juste pour rire touchera de nouveau cette année du financement du fédéral. Les faits et gestes de l'organisation seront toutefois scrutés à la loupe, avertit le ministère du Patrimoine. Ottawa renouvellera le financement de 1 million par année dont bénéficie le festival Juste pour rire, a confirmé hier soir le cabinet de la ministre Mélanie Joly, signe que le gouvernement souhaite maintenant garder l'organisation à l'œil. La nouvelle entente s'étalera sur 2 ans au lieu de 4. Le festival dévoile ce matin sa programmation 2018. Et finalement, les autorités ont déclenché une alerte rouge autour du volcan Kilauea, je sais pas trop comment le prononcer, K-I-L-A-U-E-A, Kilauea, à Hawaï, après une intensification de l'activité sismologique et une éruption de fumée volcanique. Le niveau d'alerte rouge signifie qu'une éruption est imminente, en cours ou fortement suspectée par les autorités, et que des activités menaçantes sont détectées tant au sol que dans les airs. Le niveau d'alerte orange avait déjà été enclenché, ce qui signifie que l'éruption était en cours, mais qu'elle ne présentait pas jusque-là des risques majeurs pour l'aviation. Une trentaine de bâtiments ont été détruits la semaine dernière par le volcan le plus actif de Hawaï, qui est entré en éruption jeudi, selon la défense civile de l'archipel américain du Pacifique.
Je m'y mêle, elle s'entremêle. Jamais ne sera un mot de passe. Derrière les masques où je suis inconnu, parmi les plus connus. Jusqu'au bout de moi, partager son temps entre plusieurs.
La formation s'appelle Le Couleur, la pièce Dis Colombo.
Les journaux régionaux, je commence avec la chronique de Mylène Moisan intitulée « L'homme qui voulait vivre ou revivre » puisque le « re » est écrit entre parenthèses. Jocelyn Prescott était membre de la Chambre de commerce. Il avait une trentaine d'employés, 5 millions de chiffre d'affaires. Il avait une femme, une belle maison. Sa femme est partie, sa compagnie a pris l'eau. L'entreprise a bien fonctionné pendant environ 13 ans, mais les deux dernières années, c'était plus difficile. Après le divorce, ça a périclité. J'ai fait une faillite commerciale, puis une faillite personnelle. Je suis passé d'homme d'affaires reconnu à, point de suspension, rien. Sa vie s'est effondrée comme un château de cartes. En novembre, il est monté dans son auto. J'étais en dépression, je ne voyais pas de solution, j'avais l'idée d'en finir. J'ai quitté Gatineau, je suis venu à Québec. J'ai couché 5 jours dans mon auto dans des stationnements de Tim Hortons. Et un matin, je suis parti avec l'intention d'aller frapper un poteau. À la place, il est allé frapper à la porte de la maison Revivre, rue Saint-Vallier-Ouest. Il avait entendu parler par hasard de cette maison pour les hommes qui n'ont nulle part où aller, mais il n'arrivait pas à se faire à l'idée d'aller là. J'avais des préjugés, et quand je suis arrivé, j'ai rencontré un homme à peu près du même âge que moi, qui avait aussi eu une entreprise, qui avait tout perdu. Ils sont de plus en plus comme eux, des hommes qui avaient une vie normale et qui, du jour au lendemain, se retrouvent dans la rue. Le pire, c'est que Jocelyn, avant de se lancer en affaires, avait travaillé pendant 15 ans en relation d'aide. Avec un baccalauréat en psychologie, un certificat en adaptation psychosociale, un autre en toxicomanie et un autre en santé mentale, il savait, en théorie, comment s'en sortir. Je lui ai demandé si quelque chose aurait pu l'aider à bifurquer avant le cul-de-sac. Je pourrais te dire plein de choses, des belles phrases, mais est-ce que ça aurait été utile? J'avais tous les outils en main, toute la théorie, mais je suis tombée quand même. Il n'y a pas de recette magique, pas de solution miracle. Tu descends, tu touches le fond, et arrive un moment où tu as deux choix, mourir ou vivre. Jocelyn a choisi de vivre. Le 9 novembre, il est entré à la maison Revivre. Le lendemain, il est allé s'inscrire à l'aide sociale. J'ai tourné pendant 1 heure et demie autour. Je ne me voyais tellement pas faire ça. Je n'en revenais pas d'être rendu là, moi qui avais toujours connu le succès. Bac avec mention, qui a été reconnu pour mon travail en relation d'aide, puis comme entrepreneur. Toute ma réalité était liée au succès. Il a pris une sacrée débarque. À 59 ans, il est parti de là. Du zéro Kelvin. Il est allé chercher de l'aide chez Autonomie. Autonomie, ici, on l'appelle AUTONHOMMIE. Un centre de ressources pour hommes. On a travaillé mon estime, je n'en avais plus, j'avais toujours vécu pour mon image. Ça a l'air super cliché ce que je vais te dire, mais j'ai compris que j'avais toujours vécu dans le paraître. Et là, je vis dans l'être. C'est la base. Jocelyn habitait à la maison Revivre jusqu'en février, le temps de se revirer de bord, d'encaisser un premier chèque d'aide sociale, de se trouver une place pour rester. Je me suis trouvé un studio tout meublé, j'en suis à mon 3e mois. Là, j'économise et je calcule qu'en septembre, je vais pouvoir me trouver un 3,5. Il s'implique maintenant dans l'organisation du 40e anniversaire de la fondation de la maison qui sera fêtée cet automne. J'ai trouvé le slogan « La maison Revivre crée encore de l'espoir ». C'est ce que j'ai vécu. Je n'étais plus rien et maintenant, après 7 mois, tout redevient possible. Il passe encore plusieurs nuits à la maison, comme employé maintenant. Ici, ils ont vu mon potentiel et ils m'ont offert de travailler comme surveillant la nuit. Ils m'ont embauché. Je suis rémunérée, j'ai retrouvé ma dignité que j'avais perdue. Tu sais quoi? Je gagne 400 clairs par semaine et je n'ai jamais été heureux comme ça. Et si tu n'étais pas venu ici, serais-tu mort? C'est clair. Martin Maurice est passé par là. C'était il y a 20 ans, il a perdu sa femme, sa maison, son garage et il s'est reconstruit. Il est depuis 8 mois directeur général de la maison Revivre qui héberge et nourrit des hommes qui n'ont nulle part où aller. Ça peut être quelques nuits, jusqu'à une limite de 3 mois, parfois plus, mais c'est rare. Ça sent le propre dans la maison. Il me l'a fait visiter, les chambres en haut, 6 lits dans le dortoir A, avec une porte pour ceux qui s'enlignent pour devenir bénévoles, le G avec 3 lits pour ceux qui ronflent, avec une porte aussi. En tout, 29 lits. On a été complet tout l'hiver, on a roulé à pleine capacité. Martin aimerait convertir la salle de conférence en un autre dortoir, 2 ou 3 lits pour les pères qui viennent de se séparer. Les besoins sont grands. Fondée en 1978 par Colette Sanson, la Maison Revivre a servi plus d'1 million de repas, distribué plus de 60 000 sacs de nourriture, offert 150 000 nuitées. le tout sans aucune aide gouvernementale. On vit seulement avec des dons des entreprises, des organismes comme Rotary, des particuliers. Quelques employés, une bonne douzaine de bénévoles. Depuis qu'il a hérité des clés de la maison, Martin a mis sur pied un projet pilote avec autonomie qui offre des services de consultation. Ce qu'on voyait, c'est que les hommes voulaient y aller, mais ils n'avaient pas les moyens. Nous, on leur paye jusqu'à 10 rencontres. Et ça fonctionne. On en a 6 ou 7 présentement qui reçoivent les services. Avant, on les référait au CLSC, mais ils nous disaient qu'il y avait 6 mois, 1 an d'attente. C'est là que j'ai eu l'idée du projet. Le but est qu'ils ne reviennent plus à la maison, qu'ils retrouvent le sourire. Ici, c'est devenu mes amis, confirme Jocelyn Prescott, un rescapé. C'est sûr que je ne pourrai plus jamais être seule. Quand ils arrivent, ils n'ont souvent plus rien. Plus d'estime, quelques vêtements, souvent ceux qu'ils ont sur le dos. Chaque résident a une boîte à son nom. Tout le monde doit prendre sa douche avant 17h30, c'est obligatoire. On leur remet une débarbouillette et une serviette, et s'ils en ont besoin, du linge propre. Il y a, attenant à la salle des douches, un grand local où sont rangés plein de vêtements. Des dons, comme tout le reste. Pas de douche, pas de lit. Avant, le gars allait leur demander s'ils avaient pris leur douche, mais on ne fait plus ça. C'est leur responsabilité, ce ne sont pas des enfants. Les règles sont strictes. Aucune consommation. Certains résidents vont et reviennent, d'autres arrivent en miettes, souvent après une séparation. On voit de plus en plus d'hommes qui sont dépendants affectifs, qui n'ont plus aucune estime de soi. On se rend compte que c'est leur conjointe qui gérait tout, qui faisait tout. Et il y en a qui ne savent même pas comment faire cuire un steak. Alors quand le couple éclate, c'est tout leur univers qui tombe. Et eux aussi. Alors voilà pour la chronique de Mylène Moisan d'aujourd'hui dans Le Soleil. Les résidents veulent de l'eau. C'est dans Le Quotidien, sous la plume de Pascal Girard. Les résidents du chemin Saint-Isidore ont bien porté leur message au conseil d'arrondissement de Jonquière mardi soir, alors qu'une quarantaine d'entre eux étaient présents pour demander d'avoir enfin accès aux services d'eau potable. Ils dénoncent également l'état de la chaussée. Le groupe était mené par le citoyen Jean-Claude Ménard, qui œuvre sur le dossier depuis 2013. « On demande juste l'eau », a-t-il indiqué au quotidien après la séance, spécifiant qu'il ne s'agissait pas de demander le raccordement au réseau d'égouts. « On a déjà tous une fosse septique », a-t-il mentionné. Selon lui, le chemin Saint-Isidore compte 28 résidents et 3 entreprises. Il a calculé qu'au total, le chemin compte 60 résidents, rendant impressionnante la quantité d'entre eux qui se sont déplacés pour se faire entendre. Le chemin Saint-Isidore donne sur le boulevard du Royaume, route 170, à la sortie de Jonquière en direction d'Alma. Il se trouve à environ 3 km du centre-ville. Le problème est que ces gens n'ont pas accès à l'eau potable du réseau de Saguenay. Environ la moitié des résidences n'ont accès à aucun réseau, alors que l'autre moitié est branchée sur réseau privé. Selon les explications fournies au conseiller Jonathan Tremblay par les ingénieurs de la ville, il ne serait pas possible de rendre une conduite jusqu'à ce chemin à des coûts raisonnables. La conduite d'eau de Saguenay passe toutefois tout juste de l'autre côté du boulevard du Royaume. On lui dirait cependant qu'il n'est pas possible de passer sous la rue et qu'il faudrait faire un grand détour pour se rendre au chemin Saint-Isidore. M. Ménard et bien d'autres résidents ont peine à comprendre cette explication. N'ayant pas accès à l'eau courante, les résidents doivent donc se tourner vers des puits artésiens. Une rencontre avait déjà eu lieu la semaine dernière entre M. Ménard et la présidente de l'arrondissement de Jonquière, Julie Dufour. Le directeur général de l'arrondissement, Mathieu Graffel, y était également. Le conseiller a expliqué qu'il est difficile de financer des travaux de raccordement au réseau d'aqueduc, car peu ou pas de subventions sont disponibles à Québec. Il compte cependant sur la promesse de José Néron de refaire 40 km de route annuellement. Il a rappelé qu'il a déjà obtenu un financement de 600 000 $ pour faire des travaux semblables sur 2 tronçons de chemin Saint-André. Et il ne croit pas qu'il faille nécessairement attendre le réasphaltage pour faire les travaux d'aqueduc. Ça n'a pas brisé l'asphalte, la façon d'insérer l'eau, a-t-il assuré en se rappelant l'intervention sur Saint-André. Et un petit paragraphe, dans le Nouvelliste, ça bouge au cabinet du maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque. Le chef de cabinet depuis les 12 dernières années, Roger D. Landry, quittera ses fonctions cette semaine. Il sera du même coup remplacé par deux anciens conseillers municipaux, René Goyette et André Noël, qui se partageront les tâches de directeur de cabinet et de directeur des relations politiques. Vous écoutez l'émission Le quotidien des quotidiens à l'antenne de Canal M de Vues et Voix. Restez avec nous dans un petit moment les actualités culturelles.
Pièce souvenir de 1979, Robert Holmes avec cette pièce qui nous donne bien le goût d'un pina colada, Escape the Pina Colada Song.
Actualité artistique, culturelle, l'auteur, diplomate et ancien directeur du Devoir, Jean-Louis Roy, sera nommé aujourd'hui président-directeur général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ, a pu faire confirmer le Devoir ce matin. Âgé de 77 ans, M. Roy ajoute cette fonction à une feuille de route déjà bien garnie. Il a dirigé le Devoir au début de la quarantaine entre 1981 et 1986, moment où il fut nommé délégué général du Québec à Paris. En 1990, il devenait secrétaire général de l'Agence universitaire de la francophonie, maintenant une des branches de l'Organisation internationale de la francophonie, poste qu'il occupa jusqu'en 1998. Dans les 20 dernières années, M. Roy a présidé le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique, puis le groupe de réflexion Partenariat international, tout en dirigeant l'Observatoire mondial des droits de l'homme. Le nom de Jean-Louis Roy est beaucoup associé au dossier de la francophonie et de l'Afrique, continent qu'il fréquente assidûment depuis une quarantaine d'années. Il a publié de nombreux essais, de même que des romans et de la poésie. Il succédera à Christiane Barbe, qui a démissionné en avril 2017. Depuis, c'est Geneviève Pichette qui assumait les fonctions de manière intérimaire. Le processus de sélection fut long, notamment parce qu'une première personne recommandée par le conseil d'administration de la BANQ a été écartée par Québec au début de l'année. Manon Gauthier, ancienne responsable de la culture au comité exécutif de la Ville de Montréal, ne répondait pas à un critère obligatoire pour accéder aux emplois supérieurs du gouvernement. L'écrivain américain Tom Wolfe, auteur notamment du best-seller Le bûcher des vanités et figure d'un nouveau journalisme qui se lit comme un roman, est mort lundi à New York à 88 ans. Cet auteur d'une quinzaine d'essais et de romans connu pour son costume crème, ses nœuds papillons et son look de dandy au chic démodé, est mort dans un hôpital de Manhattan où il avait été transporté pour une infection, a confirmé mardi une porte-parole de son agente Lynn Nesbitt. Le Wall Street Journal a évoqué une pneumonie. À peine sa mort annoncée, les hommages commençaient à affluer sur les réseaux sociaux. Hubert Lenoir emmerde ses détracteurs. Hubert Lenoir n'a rien à foutre des messages haineux qu'il reçoit sur les réseaux sociaux depuis son passage remarqué à des émissions comme La Voix et Les Échangistes. Le rocker, qui joue de son look androgyne, a publié un bref billet sur Instagram pour affirmer qu'il n'entendait pas se justifier face à des gens conservateurs, imbéciles et homophobes. « Je vous emmerde tous », leur répond-il carrément dans ce message qui accompagne une photo de lui, torse nu prise par John Londono. Ça a le mérite d'être clair, écrit Frédéric Murphy dans la presse. Créée en 2017, l'adaptation théâtrale du film de Denis Arcand, Le déclin de l'Empire américain, sera de retour sur les planches d'Espace Go du 12 au 27 octobre prochain. L'adaptation se base sur le scénario du film. Elle est signée Alain Farah et Patrice Dubois. Ce dernier y tient un rôle et se charge également de la mise en scène. Le spectacle qui a fait le tour du Québec présentera deux nouvelles comédiennes, Anne Casabonne et Rose Maïté Ercoreca, qui reprendront les rôles de Sandrine Bisson et d'Evelyne Gélina. Les autres interprètes sont Danny Boudreau, Marilyn Castonguay, Alexandre Goyette, Simon Lacroix, Bruno Marcil et Marie-Hélène Thibault. Le public a pu voir hier les premières images de Rami Malek dans la peau de Freddie Mercury avec le dévoilement de la bande-annonce du film Bohemian Rhapsody. Le film en chantier depuis 2011 sortira enfin en salle le 2 novembre. Au départ, c'est Sacha Baron Cohen, Borat, qui devait incarner le défunt chanteur du quatuor britannique Queen. Le scénario a eu plusieurs versions et auteurs, notamment en raison de mésententes avec les membres du groupe. Bryan Singer a réalisé une partie du film, mais Dexter Fletcher l'a terminé. « La poésie sous toutes ses coutures, d'un hommage à la poétesse José Yvon à une table ronde sur l'écriture du territoire éco-critique ou géographie littéraire, le Festival de la poésie de Montréal reprendra sa place du 28 mai au 3 juin. À ses côtés, le marché de la poésie se tiendra quant à lui du 31 mai au 3 juin, place Gérald Godin sur le plateau Mont-Royal. En hommage à José Yvon, la fée des étoiles, comme on la surnommait de son vivant, poétesse de tous les dangers, une brochette de poètes a préparé un spectacle qui se tiendra le 2 juin à la Maison des écrivains. La poétesse Carole David, qui a préfacé le recueil « Danseuse mamelouque » de José Yvon, agit comme conseillère du spectacle. Un spectacle célébrant cette fois l'écriture du territoire se tiendra le 31 mai sur la scène du Chapiteau. On promet d'y croiser différents points de vue et différents vécus avec notamment Jean Sioux, Serge-Patrice Thibaudeau, Maïngan Lepage, Joséphine Bacon et Virginia Pessé-Mapéo-Bordelot. Le thème de l'écriture du territoire ou nature writing, sera aussi le sujet de la grande table qui sera animée par Louis-Carl Picard-Sioui vendredi le 1er juin à la librairie Oliveri. Le 29 mai, Emmanuel Robichaud met en scène La chasse aux licornes, un recueil de Baron Marc-André Lévesque paru aux éditions de L'Écrou en 2016. Le spectacle « Projection » au pluriel réunira quant à lui trois poètes, Ariane Gélina, Michel Plot et Ouanessa Younsi, ainsi que les musiciens Jimmy Lahaye, Hélène Lemay et André Moisan. Théâtre, salle comble, Frédéric Dubois s'engage de nouveau sur les terres de l'absurde dans Les chaises, texte de Eugène Ionesco, coproduction du Théâtre du Nouveau Monde et du Théâtre des Fonds de tiroir. C'est au TNM jusqu'au 2 juin. Et je vous lis les débuts de la critique de Christian Saint-Pierre. En 1991, au 4 sous, Daniel Roussel avait guidé Benoît Girard et Hélène Noiselle dans cette vertigineuse aventure théâtrale que sont Les chaises. En 2000, au Rideau vert, Paul Buissonneau faisait lui aussi appel à Hélène Noiselle, cette fois pour partager la scène avec Gérard Poirier. Au TNM, ces jours-ci, presque deux décennies plus tard, la pièce d'Eugène Ionesco, créée à Paris en 1952, est défendue par un autre tandem de grands acteurs, Gilles Renaud et Monique Miller, sous la houlette de Frédéric Dubois. Rappelons que le co-directeur du Théâtre des Fonds de tiroir, qui s'est maintes fois frotté à Ionesco depuis la fin des années 90, a fait son entrée au TNM il y a 5 ans en dirigeant Benoît McGuinness dans « Le roi se meurt ». Tout aussi inquiétante, mais peut-être plus radicale encore, la partition des chaises cristallise le génie impérissable de celui que l'on considère, avec Samuel Beckett, comme le père du théâtre de l'absurde. Yeah.
Premier extrait de son album Darlene, c'était la pièce Fille de personne, Hubert Lenoir, qui fait beaucoup jaser ces temps-ci.
Le devoir, après l'incendie, la vague d'amour. Il faudra bien plus qu'un feu pour arrêter les artisans du devoir dans leur mission d'informer. C'est un article d'Isabelle Paré dans Le Devoir, il va sans dire. Le devoir était sur tous les écrans et sur le seuil des portes mardi matin. Comme si de rien n'était, malgré l'incendie qui a éjecté de ses locaux ses 120 employés. Sans domicile fixe, une équipe réduite a réussi l'improbable, livrant sans anicroche l'édition du jour, rattrapée par le feu roulant de sa propre actualité. Grève, lockout, inondation, tempête de verglas, panne généralisée. En plus de 108 ans d'existence, le devoir a traversé bien des épreuves, a essuyé les foudres de bien des politiciens, mais n'avait jamais encore eu le feu à ses trousses. Malgré l'incendie qui a soufflé le toit de l'immeuble abritant le devoir lundi soir, l'intervention de plus de 45 véhicules, de 120 pompiers et 4 alarmes d'incendie, les flammes ont miraculeusement épargné la totalité des équipements du quotidien, notamment son serveur central. Mon premier souci, c'était de savoir que tout le monde avait été évacué. Le reste, c'était gérable. Quand j'ai vu les flammes, j'ai cru que la salle des serveurs y passait, a commenté mardi Brian Mize, directeur du Devoir. Quand j'ai lu mon devoir ce matin, où tout était en place, je me suis demandé si j'avais rêvé, a-t-il ajouté, soulagé. Ce matin, une vague odeur de bivouac flottait dans la salle de rédaction restée figée après l'évacuation éclair des employés. Outre quelques locaux abîmés par l'eau, ne reste que quelques traces de suie dans l'escalier de secours, pourtant transformé en cascade d'eau la veille. Alors que le feu faisait rage sur le toit, un plan d'urgence a été déployé dès 18h30 pour investir les locaux de l'École des médias de l'UQAM, située à 2 jets de pierre du Devoir, pour assurer la publication du journal. Armée de quelques portables et appareils photo attrapés au vol, l'équipe du numérique s'est mise sur le mode journalisme de brousse pour couvrir en direct notre propre infortune. Avec des ordinateurs exhalant une vague odeur de feu de camp, une autre équipe réduite s'est affairée à terminer l'édition du lendemain dans son refuge temporaire, après avoir réussi à se connecter à distance au serveur central. Plusieurs ont vécu un retour inopiné sur les bancs d'école, dans l'alma mater qui leur a appris le métier. Bilan, les tombées ont été respectées et le journal livré comme à l'habitude jusque dans l'est du Québec. Un petit miracle, comme il s'en forge chaque jour entre les quatre murs de l'institution centenaire. Conscient qu'il y aurait à éteindre des feux, entre guillemets, en prenant la barre du devoir en 2016, son directeur était loin d'imaginer qu'un vrai brasier viendrait s'ajouter au lot de ses défis quotidiens. Nous avons été à l'image de nos lecteurs qui nous portent à bout de bras depuis plus de 100 ans. C'était à notre tour de ne pas les lâcher, ou de ne pas lâcher. Il n'était pas question d'un échec, a-t-il déclaré aux employés, réunis mardi après-midi. Lecteurs et abonnés ont été plus rapides que les étincelles pour propager une flambée de solidarité sur les réseaux sociaux. En 12 heures, quelques 113 d'entre eux ont fait affluer plus de 10 000 $ en dons et de nombreux messages d'encouragement. Consternés d'apprendre cet incendie, vous avez notre soutien, notre entier soutien, quels que soient les délais de production du journal, a écrit Pierre Duplessis en offrant sa contribution. Jean-Guy Larrain et Michel Le, cardinal de Laval, s'étaient résignés à ne pas recevoir leur journal mardi. Quelle heureuse surprise de mettre la main dessus ce matin! Un feu, ça s'éteint, pas le devoir. Merci d'être toujours là, a commenté Solange Bolduc sur les réseaux sociaux. Hâte de vous lire demain, a fait savoir Carlos Villas-Boas depuis le Brésil. En cours de journée, hommes politiques et partenaires de longue date du Devoir ont ajouté leur voix à celle de nos lecteurs. Le premier ministre Philippe Couillard a offert par téléphone son soutien au directeur du journal. « Mon père a toujours été abonné », a-t-il déclaré lors d'un point de presse. « J'ai grandi avec le Devoir dans la maison ». Le chef de l'opposition officielle, Jean-François Lisée, a aussi salué la résilience des artisans du quotidien indépendant. Dans une rare unanimité, les chefs politiques ont pressé le gouvernement fédéral de faire montre de sa solidarité en faisant en sorte que les dons de charité faits aux médias soient déductibles d'impôts. La veille, la ministre de Patrimoine canadien, Mélanie Joly, Valérie Plante, mairesse de Montréal, et Gabrielle Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire, avaient aussi exprimé leur soutien au quotidien sinistré. « Demain, comme chaque matin », a tweeté ce dernier, « je ferai ce que je dois, je vous lirai ». Québecor, la presse canadienne, le HuffPost, The Globe and Mail, The Gazette et Capital Media se sont montrés tout aussi généreux, offrant des locaux ou du soutien matériel. Les collègues du quotidien Le Monde se sont joints à ce concert solidaire, ainsi que de fidèles partenaires institutionnels du Devoir, dont Desjardins, le Fonds de solidarité, BCM, et Devencore, propriétaire de l'immeuble sinistré. Bilan de la journée, le plus grand capital du Devoir s'avère la cote d'amour et la fidélité exprimée par ses lecteurs, conclut Brian Mize. On a vu toute une communauté se mobiliser autour du Devoir. Un lecteur m'a écrit « On se fait une fierté nationale de porter le Devoir. Ces lecteurs nous ont tellement soutenus au fil des ans que là, nous avions une volonté collective de sortir à tout prix. Juste pour ça, ce fut pour moi la plus belle édition de ce journal depuis que je suis là. L'âge importe peu. Chaque semaine, la presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires. C'est Isabelle Massé qui signe le texte. Le geste. Engager vieux. La toute nouvelle aide barmaid d'un hôtel Marriott de Singapour a 67 ans. Les gens plus vieux tendent à être plus ponctuels, loyaux et minutieux, justifie New Kang Tiang, directeur des ressources humaines de l'hôtel. Cette embauche s'inscrit dans la mise en place d'un programme d'inclusion de toutes les générations au travail lancé à la fin avril. Créé conjointement par la Fédération nationale des employés de Singapour, le ministère de la main-d'œuvre et le National Trades Union Congress, il est implanté alors que Singapour voit sa population vieillir et fait face à des gens qui ne sont pas tous prêts à prendre leur retraite à 60 ans. Cette pratique d'ouverture de postes plus adaptée a rapidement été adoptée par 160 organisations. La méthode, parler de ses collègues en bien. Supporter la responsabilité publiquement tous ensemble, quitte à critiquer le fautif derrière des portes closes. Après l'élimination des Predators de Nashville jeudi dernier, P.K. Subban a publiquement défendu le gardien de but, Pekka Rinne, ou Rinne, qui a vécu un début de match catastrophique et a plutôt attribué à l'équipe la responsabilité de la défaite. Ceux qui veulent critiquer Pekka ne savent pas de quoi il parle, a dit Subban en entrevue. Il est le soutien de notre club, une des raisons principales de notre présence ici. Est-ce qu'on aurait pu être meilleur aujourd'hui? Oui, on n'en a pas fait assez. Je n'en peux plus des gens qui ne font que parler de lui. On parle ici d'un des meilleurs gardiens de la Ligue et on est chanceux de l'avoir. C'est l'équipe qui doit s'améliorer. Parole de Piquet. 8. Nombre d'heures passées chaque semaine par des gestionnaires à corriger le travail insatisfaisant ou inefficace de leurs employés. Selon le cabinet d'embauche, Robert Half, ce temps perdu est une conséquence directe d'un processus de recrutement écourté et simplifié. Une stratégie d'embauche exhaustive est essentielle afin d'éviter qu'un membre d'équipe inadéquat ou incompatible détourne l'attention des priorités d'affaires et des ressources en personnel, dit Greg Silepi, président Activité internationale de dotation en personnel de Robert Half, dans un communiqué. Embaucher des gens qui ont des affinités avec les présents salariés, offrir une rémunération plus élevée, utiliser plusieurs voies pour la quête de candidats potentiels et ne jamais négliger l'étape de vérification des références aiderait à éviter ces heures mal utilisées. La citation « Trop souvent, les organisations perdent leurs meilleurs talents car elles ne comprennent pas que chaque personne d'une équipe est une machine à apprendre. Nous voulons apprendre constamment », a dit Whitney Johnson, coach et auteur du livre « Built in a Team ». Entre 700 et 2000 caractères. La formule parfaite en offre d'emploi existe-t-elle? Sûrement pas. Un pas dans la bonne direction semble toutefois être la longueur des textes des propositions de postes à pourvoir. Celles faisant entre 700 et 2000 caractères attirent 30 % de plus de candidats potentiels selon Indeed.com. La clé est de trouver le bon équilibre entre la description et la concision, indique le site de recherche d'emploi. Tout est lié. Une ligne tracée entre la vie personnelle et la vie au travail est un non-sens pour Jeff Bezos. Si je suis heureux à la maison, je vais arriver au travail motivé et énergique. Et si je suis heureux au travail, je vais rentrer à la maison motivé et énergique, soutient le fondateur d'Amazon. C'est lié. J'essaie d'enseigner cette harmonie à mes gestionnaires et jeunes employés. Pas besoin de séparer le travail de la vie familiale pour réussir à avoir une vie harmonieuse, soutient celui qui, selon Market Watch, a toutefois dû affronter des employés qui se sont plaints de difficiles quarts de travail récemment. C'était donc les conseils, anecdotes, réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires. C'est dans la presse, Isabelle Massé. Un grand merci d'avoir été à l'écoute de Le quotidien des quotidiens. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une belle journée, qui dit aussi un grand merci à Jean-Sébastien Laliberté. À la mise en onde et au choix musical, on se retrouve dans quelques minutes, je l'espère bien, au Par Actualité.